pas comme les autres. Mario Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon jeudi. La veille peut-être d'une tempête de neige, d'une bordée de neige, dépendamment des régions. Bonjour Vincent.
Salut Mario, ça prendra les pneus d'hiver?
Oui, il faut commencer à y penser à les avoir. Alors, toute façon, on est à quoi? On est à 5 jours que ça va devenir illégal de circuler sans pneus d'hiver. Et pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir leurs pneus d'hiver, on va avoir un chèque.
Oui, un chèque qui arrive pour fait plus de 3 millions de Québécois. C'est la mise à jour économique d'Éric Girard, le ministre des Finances, aujourd'hui. Faut dire, la reprise économique au Québec a été exceptionnelle. Au dire de M. Girard, ce qui permet, fait ce qui cause de l'inflation, on le sait, ça coûte cher, l'épicerie, l'essence et compagnie, de sorte qu'on donnera aux plusieurs Québécois, fait ceux qui gagnent en moyenne à moins de 56 000 pour un ménage, moins de 51 000 seuls, des chèques entre 275 et 400 $.
Alors, ça va arriver fin janvier.
Fin janvier. Période où souvent les cartes de crédit sont pleines, ça va faire du bien quand même à des gens. Il faut dire, avec le prix de l'épicerie, c'est pas, on ne te garde pas tant que ça avec 275 $.
Non, mais là, il faut que tu le gardes pour chacune de tes factures d'électricité de l'année. C'est pour combattre l'inflation, il faut que tu le répartisses entre tous tes petits...
15-20 $ par mois.
Toutes tes petites augmentations liées à l'inflation. On va rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
Salut Mario.
Bonjour.
Alors, mise à jour économique qui a été présentée par le gouvernement de François Legault. As-tu l'impression que c'est un mini-budget qui a été mis de l'avant là, pour contrer l'inflation?
Bon, l'année de l'élection, faut pas perdre d'occasion d'annoncer des bonnes nouvelles. À chaque fois qu'on a une occasion, on en profite. Ça n'a pas l'envergure d'un budget, mais oui, il y a quand même quelques mesures budgétaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Notamment, là, ces nouvelles bourses, ces transferts aux ménages pour des chèques, tout simplement. On dit pour combattre l'inflation, là, mais c'est des retours d'argent aux ménages, un beau chèque à la fin janvier. Est-ce que ça c'est très structurant? Moi, je suis pas un fan des envois de chèques, mais là, je pense que c'est M. Trudeau a rendu ça populaire, le gouvernement Legault. Bon, disons que si on est dans la certitude et la perspective que l'inflation est un phénomène temporaire, tu sais, on est pris dans de l'inflation, mettons de l'automne au printemps, bon, d'envoyer dans le milieu de la période un chèque aux gens pour compenser les factures supplémentaires d'épicerie ou d'autres, ça peut avoir de l'allure. Si on est dans la perspective que l'inflation est installée pour un peu plus longtemps, ce qui serait plus recommandé dans ce cas-là, c'est au gouvernement d'emprunter moins, de dépenser moins, de se calmer un peu, parce que d'envoyer des chèques à tout le monde, ça a exactement une pression inflationniste, là. Mais on comprend qu'il y a aussi une notion politique là-dedans. Les gens voient tout...
Mais puisque tu en parles, Mario, on a posé la question à M. Girard concernant une éventuelle élection dans moins d'un an. Écoute bien sa réponse.
Est-ce que les mesures que vous annoncez aujourd'hui auraient été les mêmes, même si on n'était pas en année préélectorale?
Écoutez, c'est une bonne question.
Merci.
On est en pandémie. On sort de la pire récession mondiale. On a des défis des finances publiques. Honnêtement, moi, là, j'ai pas pensé à l'élection une fois dans les 12 derniers mois.
Mario.
C'est pas beau, ça?
Y crois-tu?
Je trouve ça magnifique.
Elle est bonne quand même,
je trouve
pas.
Non, non, mais on s'entend qu'il y a en masse d'arguments pour, avec l'inflation, avec la pandémie, il y a en masse d'arguments pour verser des chèques, là. Est-ce qu'on l'aurait fait? Peut-être que oui, remarque, peut-être que oui, mais mettons que ça tombe bien. Disons, résumons ça comme ça. Le hasard arrange bien les choses.
Pénurie de main-d'œuvre. Faut dire rareté de main-d'œuvre, Mario, mais ensemble, je pense qu'on peut dire pénurie de main-d'œuvre. De donner de l'argent. 9 000 $ à la fin d'un programme collégial, 15 000 $ à la fin d'un programme universitaire. Il y a 6 secteurs qui sont ciblés. Bon, enseignement, santé, les garderies, la construction, le génie et j'en oublie un, mais bon, je pense qu'on comprend l'essentiel. Et jamais on n'aurait pu penser se retrouver là. Il faut se rappeler les carrés rouges où on demandait de réduire les frais de scolarité. Là, on donne l'argent pour compléter une formation universitaire. C'est quand même incroyable.
Oui, je comprends qu'on veut encourager des jeunes là, dans des secteurs où il n'y a pas assez de gens qui se présentent. Mm-hmm. Je reste avec certains questionnements parce qu'il y a des manques de main-d'œuvre presque dans tous les secteurs. Je sais pas. Je dirais faut que je me fasse une tête, mais je suis pas con. J'ai vu cette mesure-là, puis ça m'a moyennement convaincu. Bon, on comprend que dans ça, le gouvernement règle quelques-uns de ses problèmes à lui, en sciences infirmières ou en enseignement. Là, donc, le gouvernement règle quelques-uns de ses problèmes à lui. Non, sur quelques années, mais quand même, il faut y voir là, parce que c'est pas des pénuries qui sont sur le bord de se résorber. Ce sont des, tu sais, c'est structurel et ce sont des domaines où il y a beaucoup de prises de retraite là. Des infirmières, des enseignants, il y en a plusieurs qui ont pris leur retraite ces dernières années. Il y en a encore plusieurs qui avancent dans la cinquantaine, donc c'est une question de temps qu'ils vont prendre leur retraite aussi. Donc, il y a un vrai enjeu. Là, c'est juste donner des bourses spéciales. Est-ce qu'on déplace des étudiants puis que dans un an, on va se rendre compte qu'on a créé des pénuries dans d'autres secteurs où il n'y a plus assez d'inscrits dans les universités? Je suis pas... je sais que je suis contraire au reste de la société, mais la plupart des gens, quand le gouvernement verse de l'argent, font le party puis réfléchissent après. Moi, je réfléchis avant puis je m'interroge beaucoup parce que c'est arrivé souvent que le gouvernement lance l'argent puis finalement, on se rendait compte que ça valait à plein de bonnes intentions, mais c'était de l'argent lancé par les fenêtres.
Aîné, incitatif pour un retour au travail, mais pas dans tous les secteurs, Mario. Pourtant, on est en pénurie de main-d'œuvre. Pourtant, les aînés qui ont besoin d'argent devraient avoir des incitatifs pour retourner au travail. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on aurait dû élargir ça pour tous les aînés qui retournent au travail?
On a déjà, faut voir une chose, hein. On a déjà des mesures, dans les derniers budgets, il y a déjà eu des mesures pour encourager les aider, les aînés à retourner au travail, rendre ça plus avantageux financièrement. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites. Là, on le refait encore un peu plus, une coche de plus pour certains secteurs. C'est peut-être pas la dernière fois, mais ça, c'est clairement des pas dans la bonne direction. Il n'y a pas de doute. Il faut encourager un maximum de gens, là, qui ont encore la forme physique, la capacité à rester sur le marché du travail. Maintenant, on a un problème plus large. Le gouvernement aime mieux pas le voir, là. Mais quand il s'assoit des tables de négociation, on dit on est en pénurie de main-d'œuvre, mais quand le gouvernement s'assoit des tables de négociation de ce temps-ci, la première chose que les syndicats lui demandent, c'est on veut travailler moins, on veut faire de la semaine de 4 jours. C'est-à-dire, la pénurie de main-d'œuvre est pas en phase de résorption, elle est en phase d'accélération. Parce que la grosse mode, là, c'est de demander à travailler moins. Donc, les gens réclament là, qu'on empire la pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qui est réclamé de partout. Est-ce que les retraités à eux seuls, en revenant un peu sur le marché du travail, vont pouvoir compenser pour ça? Je m'inquiète, mettons.
Mmh. Hausse des cas de la COVID-19 au Québec, 25 novembre aujourd'hui. Mario, nous sommes à un mois de Noël. Es-tu inquiet?
Oui. Oui, c'est pas paniquant. Les hospitalisations sont encore sous contrôle, mais écoute, c'est parce que là, à un moment donné, on est comme un vieux sage ou nos grands-pères agriculteurs qui avaient appris à surveiller la météo, les nuages arrivaient. T'sais, on commence à la connaître, la COVID, là. On regarde ce qui arrive en Europe, on regarde le nombre de cas, les tendances. À un moment donné, là, tu mets tout ça ensemble, tu regardes les courbes un peu. Cinquième vague, là, on commence à connaître le processus. Fait que, il me semble que, je sais pas, je suis peut-être devenu trop pessimiste. Il me semble que c'est écrit dans le ciel que la semaine prochaine, on va passer les 1000 cas, ça va monter, puis là, on se croise les doigts quand même. La vaccination des enfants, ça va calmer. Il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions dans les écoles primaires qui contribuent à grossir les chiffres. Alors ça va peut-être être une zone là où on va voir tout à coup les affaires se calmer, qui vont aider à ralentir le chiffre total, la croissance du chiffre total. Mais bon, toi, ce matin, je parlais au Dr Weiss, lui qui, un peu comme la France, demandait c'est quoi la solution, il disait le confinement, tout ça, on retourne pas là. Pour lui, c'est troisième dose, là, le fameux booster, là, la troisième dose qui redonne le maximum de protection.
Mais pourquoi Québec tarde, Mario?
Ben, c'est une bonne question. Je sais pas.
Avant d'élargir la troisième dose, est-ce que cette troisième dose se ferait au détriment, par exemple, de d'autres pays, je sais pas moi, en Afrique, qui n'ont pas reçu une première dose?
Ben, oui et non, là. C'est sûr que quand on en prend. Non, c'est sûr que quand on en prend, les autres l'ont pas, là. Mais là, jusqu'à maintenant, on a pensé à nous autres en premier. Puis bon. Et là, j'ai l'impression qu'on niaise un petit peu, là. Je pense entre autres au personnel de la santé. Eux, leur 6 mois est dépassé. Hein, le personnel de la santé était vacciné en premier lieu, en même temps presque les gens des CHSLD. Et eux, leur 6 mois est dépassé. Ils travaillent aux premières loges, là, du contact avec les gens, de soigner le monde, d'accueillir les patients COVID aux besoins besoin, etc., etc. Alors, ce qui serait pas là, vraiment grand temps de leur donner la troisième dose. Puis là, les pays, les États-Unis, la France, les pays les uns après les autres donnent une espèce d'ordre général, troisième dose, booster, tous les 18 ans et plus. Je souligne quand même la France. Je sais pas si tu as vu à quel point ça va être extrêmement sévère au niveau de la passe sanitaire, là.
Ouais.
7 mois.
Ça prend une troisième dose.
Oui, ça prend 7 mois après ta deuxième dose, ton passe sanitaire est invalidé si t'es pas allé chercher la troisième. 7 mois, donc, ils rendent disponible à partir... Ils ont enlevé le 6 mois, ils l'ont ramené à 5 mois après. Donc, t'as eu ta deuxième dose, 5 mois après, t'es admissible à la troisième dose, mais il faut absolument que t'ailles la chercher. Parce que quand ça va faire 7 mois, exemple, si tu as eu ta troisième dose le 28 juin, ben 7 mois après, le 28 janvier, tu vas perdre ton droit d'aller dans les restaurants. Les pays deviennent de plus en plus sévères. L'Autriche, c'est les non-vaccinés restent à la maison. En France, on enlève le pass sanitaire si tu vas pas chercher la troisième dose. La vaccination est la seule solution, même si elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, j'en profite. Il faut que je fasse ce commentaire-là. Je l'ai fait ce matin avec Diane Lamar. Aux gens qui nous écrivent à chaque fois pour nous dire, ben vous voyez, ça prend une troisième dose. C'est pas si efficace que ça, le vaccin. Je dis à ces gens-là, mais ma foi, si vous avez un vaccin 100% efficace, vous l'avez développé dans votre sous-sol, en laboratoire, tout ça, appelez-moi, je vais vous rendre milliardaire. On le veut, votre vaccin, je vais vous rendre milliardaire. Mais si vous ne l'avez pas, ben là, on travaille avec les vaccins qu'on a puis avec le niveau d'efficacité qu'ils nous donnent en attendant. Je voulais faire cette part. Il y a toujours quelqu'un qui nous écrit en disant, hey, pas si efficace. Alors... Il est efficace dans des pourcentages quand même élevés. Mais s'il y a quelqu'un qui en a un efficace à 100% puis pour la vie, une seule dose, je vous jure, je m'engage, je prends même pas de cote puis je vous rends milliardaire, appelez-moi. Mais si vous ne l'avez pas, laissez-nous tranquille, on travaille avec les vaccins qu'on a.
Bon. Compris, ça pouvait pas mieux finir notre chronique. Merci beaucoup, Mario. Salut. Bonne fin d'après-midi à toi.
Bon. Alors, ben, oui, je t'ai fait rire.
Oui, ben.
C'est vrai ou c'est pas ça?
Non, tu as fait raison. Il y a toujours quelqu'un qui. C'est que les vaccins, c'est imparfait, puis ça, tout le monde l'a dit depuis le début. Alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose.
Incluant les médecins ben, oui. Les plus pro-vaccination, ben, le docteur Weiss.
Ben, tu vois des pays qui refont des mesures sanitaires, puis là, on nous avait dit qu'avec le vaccin, oui, on avait dit qu'avec le vaccin, il n'y avait rien de parfait, qu'il pouvait arriver des variants n'importe quand, qui allaient nous faire perdre les avancées.
Puis, je veux dire, les bénéfices du vaccin, mathématiquement, à moins de rien comprendre aux maths, là, sont clairs. Dans tous les pays, les taux de malades, d'hospitalisés sont infiniment plus élevés chez les non-vaccinés. Puis c'est visible à l'œil nu, là.
Oui, puis on peut se parler parce que, pour compléter sur l'Europe, tu as glissé un mot sur la France. Mais tu sais, on parle d'une vague importante là, qui frappe l'Europe, plusieurs pays. Je voyais l'Allemagne vient de fracasser à nouveau son record, 75 000.
Oui, bien, 73 milliards.
Presque 75.
C'est important peut-être de rappeler pour l'Allemagne, pour se donner un point de référence, au sommet des autres vagues, il y avait eu des journées à 30. Là, ça, c'était fou. Là, 30
le record,
000.
C'était à la troisième vague, c'était 30 000. Là, on est à 75 000 cas et une montée en flèche. Mais pour montrer, parce que je parlais de l'efficacité du vaccin, si on compare avec le Portugal, qui annonçait aujourd'hui des nouvelles mesures, ramener des mesures, entre autres le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, test également à l'arrivée. Mais donc, eux ont une montée, mais pas une montée très faible au niveau des hospitalisations parce qu'ils sont vaccinés.
À 80%
à peu près comme au Québec. Mais les commandes, par contre, je ne dis pas que ça inquiète personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils annonçaient des nouvelles mesures aujourd'hui. Mais dans d'autres pays, on voit une grande pression dans le système de santé.
Ici, toi, as-tu l'impression... On va être à 1000 cas la semaine prochaine. C'est là qu'on s'en va.
Pas possible qu'on soit à 1000 cas samedi. Là.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on était à 900 cas. La semaine dernière, jeudi, on était à 720. Donc, c'est une montée 25-30% qui est élevée. Encore là, hospitalisation, c'est moins 1. Soins intensifs, moins 1.
Ah, ça reste calme. Puis, il y en a beaucoup des nouveaux cas. Là. Il y a vraiment plusieurs secteurs dans les cantons de l'Est où les écoles primaires, là, c'est terrible. Ça va très, très mal. Et là, on peut au moins espérer que la vaccination qui s'amorce, mais ça va aller vite. Après moi, les enfants, au bout de 10 jours, ils vont avoir l'immunité qui est un système immunitaire très vif. Là.
Ouais.
On pourrait avoir une différence rapidement.
Et on s'entend qu'il n'y aura pas de relâchement de mesures de sitôt au Québec. Là. Parce que les
gens qui espèrent de nouveaux relâchements.
Tout à fait. Et par contre, on a beaucoup critiqué cette semaine avec le retour sur l'analyse de la première vague au gouvernement. Mais là, on gagne par contre un peu sur le fait qu'on a été prudent dans les derniers mois au Québec, qu'on n'a pas tout relâché, qu'on a encore le masque, qu'on a encore le passeport vaccinal et compagnie.
Sauf que là, parlant de vaccination, il y a quand même un énorme mystère. En ce qui me concerne, moi, je décris ça comme un mystère. Sont les chiffres de vaccination. Le gouvernement a terminé sa tournée des CHSLD. Et là, on parle de... Je dis tournée parce que ce sont les vaccinateurs qui se déplacent vers les centres. En CHSLD, on ne déplace pas les gens. Ce sont les vaccinateurs qui se déplacent. Et là, le taux est... épouvantable.
Oui, taux très bas de vaccination à CHSLD parce que, Mario, après que tout le monde soit passé là, pour aller les vacciner, troisième dose facultative, faut dire, des chiffres qui ont été obtenus par notre collègue Diane Lamarre, pharmacienne, professeure à l'Université de Montréal, c'est sur 40 000 usagers qui sont admissibles dans les CHSLD, 24 969 d'entre eux sont allés, se sont reçus le booster. Ça veut dire que c'est seulement 62%.
Alors que la première série de vaccins, c'était du 95%?
Ben, tout à fait. Et que là, je veux dire, on parle d'une vague qui arrive.
Donc, des gens qui l'ont eu. J'essaie de comprendre, il y a des gens en CHSLD, puis je caricature pas, là, je dis pas, mais en CHSLD, il y a énormément de gens qui ont des problèmes cognitifs, des problèmes de perte de faculté. Je suis même pas sûr qu'il y en a ce pourcentage-là qui sont capables de dire non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des familles qui s'en sont mêlées? Il y a des familles qui sont allées dire, bon, on veut pas la troisième dose?
Parce qu'en même temps, si on comprend qu'il y a des familles que ça peut être ça, mais avec le taux de vaccination au Québec, ces familles-là, c'est quoi? C'est 10%? Donc, pourquoi on arrive à 62 seulement?
Dès qu'il y a 38% des personnes en CH, parce que quand on parle de la perte d'efficacité là, au fil des mois, ben dans le cas des CHSLD, ils sont les premiers vaccinés. Donc, eux, ça fait 6 mois et plus, un. Et deux, comme ils sont très âgés, très affaiblis en termes de santé...
Faut pas que la maladie tourne beaucoup mal pour qu'ils se retrouvent dans le trouble.
Ben oui, je comprends pas.
Je sais, effectivement, des questions à se poser, exposer là-dessus. À l'international aussi, il y a quand même, c'est Thanksgiving là, aux États-Unis. Et il y a des inquiétudes aussi par rapport à ça. Alors que les cas montent, ça dépend des États encore aux États-Unis. Les cas montent, ça va voyager un petit peu partout à travers les États-Unis. Avec le variant Delta qui se promène, taux de vaccination très bas dans plusieurs États. On est à l'aube de revoir une hausse importante là-bas. Et le nouveau variant, c'est plate aujourd'hui des nouvelles, là. On espérait vraiment s'en sortir. Mais quand même, surveiller ce nouveau variant en Afrique du Sud qui commence à inquiéter beaucoup. Là, on lui a donné pas un nom. En fait, c'est B11529. Mais on parle, puis je lisais des virologues aujourd'hui qui se grattent la tête. Là, parce que c'est un variant qui a beaucoup, beaucoup de mutations, là, de nombreuses mutations qui pourraient le rendre effectivement plus... Bon, est-ce qu'il est plus résistant au vaccin peut-être, plus contagieux possiblement? De sorte qu'il y a une réunion d'urgence de l'OMS demain pour évaluer la dangerosité. Et plusieurs experts internationaux qui disaient il faut déclencher là, un code rouge sur l'Afrique du Sud pour limiter les voyages, parce que déjà, on avait repéré un cas à Hong Kong, dans des pays voisins aussi comme le Botswana. On sait à quel point combattre les variants, à un moment donné, ça devient impossible très rapidement. Donc, un autre variant à surveiller.
T'as effleuré tout à l'heure les États-Unis. Il y a eu combien de morts hier aux États-Unis? Parce que là, on n'en parle plus. On parle plus de la COVID aux États-Unis. Ça s'est calmé.
Ça fait autour de 1000 morts. Plus?
1600. C'est plus mentionné nulle part. Là, dans aucun bulletin de nouvelles, aucun reportage, plus rien de rien de rien. Là. Ça va bien, ça va mieux aux États-Unis, ils ont pris le contrôle. Ils ont un faible taux de vaccination, mais malgré ça, c'est un modèle à suivre pour certains de nos champions ici au Québec. Hier, aux États-Unis, il y a eu 105 000 nouveaux cas, puis 1600 morts.
C'est ça. C'est
la veille, il y avait eu 105 000 nouveaux cas, 1500 morts. Fait que dans 2 jours, aux États-Unis, il y a 2 900 quelques morts.
On risque de repasser au-dessus des 2000 morts.
Non, mais là,
pour combien de temps? Tout à fait. Surtout qu'il y a des États qui sont très vulnérables encore à une autre vague. Là.
Parce qu'aux États-Unis, ils ont connu 3000. Des journées à 3000, ils en ont eu plein encore. Mais tu dis, 1500, pas si pire. Mais non, 1500 morts dans une journée. Je comprends que ça veut dire que c'est un pays plus gros que nous, là, mais c'est du monde. Là. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, à toutes les semaines, t'en as 10 000.
Oui, et ils ne semblent pas avoir connu le type de vague qu'on voit en ce moment en Europe. Mais ça, faut que ça réveille. Tu le dis quand même souvent, là, qu'on a vu ce qui se passait en Europe arriver chez nous. Faut que tout le monde se prépare un peu à ça, là. incluant le pousser à la vaccination le plus possible. Je voyais là, ce qui était, disait, en voyant les taux de vaccination, entre autres au Portugal, on dit finalement, là, c'est à 87-88%, on n'est pas correct encore pour éviter des vagues. C'est 95 qu'il faut viser. Et donc, ça commence à faire du monde. Là. Heureusement, la vaccination des enfants va nous donner un coup de main là-dessus.
Dans les autres nouvelles, il y a un nouveau chef d'état-major à notre armée.
Oui, et il faut dire, bon, c'est pas un grand changement parce que c'est le général Wayne Eyre qui est confirmé chef d'état-major du Canada, poste qu'il avait par intérim là, depuis le retrait de l'amiral Art Macdonald en février dernier.
Et là, ça fait déjà quoi, deux trois heures que son nom circule, puis il est pas sorti du scandale.
Non, c'est ça. Tout le monde. En fait, faut dire.
Non, il était là par intérim.
Il était par intérim. Imagine à quel point ils ont dû fouiller dans retourner toutes les pierres, Mario, dans son cas. Justin Trudeau a donc confirmé que le haut gradé va demeurer en poste, disant que grâce à son expérience vécue, lui qui a été déployé en Afghanistan, déployé dans les Balkans aussi, qui a couvert, qui s'est occupé de désastres naturels, Fort McMurray par exemple, des incendies de forêt, avait exercé un leadership solide, d'aider les Canadiens à travers le pays à relever des défis importants. Alors j'ai l'impression qu'Anita Anand, la nouvelle ministre à la tête de la Défense nationale, doit se croiser les doit que tout se passe bien, mais pour l'instant, c'est le cas.
J'imagine dans l'entrevue aux emplois supérieurs, parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes des entrevues aux emplois supérieurs du gouvernement. Là, des...
Oui.
Puis là, l'entrevue est finie, ils ont fait les vérifications, toutes les vérifications de son crédit, de ses affaires, de ses antécédents, de toutes sortes. Puis là, avant de sortir de la pièce, il repose une dernière fois la question.
Regardez-moi dans les yeux.
Là, vous m'avez tout dit, on n'aura pas de surprise le mois prochain, là.
Même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, une collègue, on veut tout savoir. Mais bon, on va espérer que ce soit le bon cette fois.